Bonjour à tous, en tout cas au moins tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer déjà ce matin. Voilà, on se réjouit d'être avec vous ce matin. Ça faisait quelque temps là, qu'on n'était pas venu à Wavrin. On a toujours de la joie à être ici. Alors ce matin, mais je ne sais pas trop ce matin. Enfin... non, c'est vrai, c'est assez étrange. Hein. J'ai beaucoup lutté pour avoir une direction précise. Et je sens que ce matin, le Seigneur ne voulait pas... Peut-être une prédication, pas carrée, mais très très élaborée, mais je sentais que c'était, je me sentais poussé. Il y a un thème, et je pense que ça va rejoindre en partie ce qu'on a vécu, mais je sentais peut-être aussi, Maggie partagera quelques éléments par rapport à ça. Et puis surtout, je crois que le Seigneur veut nous inviter à prendre du temps avec lui, donc on va essayer d'être un peu plus court que d'habitude pour pouvoir prendre des temps de prière. Donc pour moi, ça va être un défi d'être plus court que d'habitude, mais on va essayer. Voilà. Ouais. Ok. Alors, en fait, voilà, j'ai pas un texte, mais j'aimerais lire quelques versets, et puis on va essayer de voir quelques points à partir de ces versets-là. Premier verset, Osée 4:6. On va juste lire... Donc, Osée après Daniel. Osée 4:6. Juste la première partie du verset. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Jean 17:3 maintenant. Jean 17:3. Donc, Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance ou par manque de connaissance. Jean 17:3. Ça va ? On va jongler un petit peu d'un passage à l'autre. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après, on va voir 2 Timothée 1:1, verset 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. D'autres versions disent en Jésus-Christ. 2 Timothée 2:1, donc c'est juste à la suite, hein, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est à nous, dans l'union avec Jésus-Christ. Et 1 Timothée, on revient un peu en arrière, 1 Timothée 4. 7 et 8. Donc 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais il est limité. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Voilà. Oui, alors dans d'autres versions, c'est la piété, mais en fait, la piété, c'est la vénération avec affection et respect. Et j'aime beaucoup cette traduction Sommer ici parce qu'il parle de l'attachement à Dieu. La piété, on ne sait pas trop ce que ça veut dire souvent, mais l'attachement à Dieu. Voilà, je vous propose de prier d'abord par rapport à ces passages et sur ce que le Seigneur veut nous conduire. On va se laisser conduire parce que je ne sais pas exactement où il veut nous mener, mais on va y aller. Oui, Père, tu dis que ta parole est la vérité et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Père, je prie ça ce matin, je prie que ta parole soit une parole qui vient frapper à la porte des cœurs et qui va venir nous rendre libres, Seigneur, parce qu'elle va venir nous parler de toi en tant que Père, de toi, Jésus, en tant que fils de ton Père, de toi Jésus en tant que le premier-né avec qui nous avons ce privilège d'entrer dans la communion avec le Père. Et Seigneur, je prie vraiment une parole qui vient frapper maintenant à la porte des cœurs, qui vient renverser les forteresses des pensées, les forteresses des raisonnements pour aller directement au cœur. Je prie, Seigneur, que tu vas donner une nouvelle perspective de ta parole. Je prie que tu vas nous attirer à entrer et à pénétrer dans la connaissance de toi, dans la proximité de ta présence, Seigneur, et que ces paroles vont être des paroles qui vont faire tomber les forteresses comme au jour de Jéricho, des paroles qui vont faire créer la vie dans les cœurs et attirer à toi, faire entrer dans la communion avec toi. Merci Seigneur, nous te confions tous ces moments. Père, tu vois, nous avons des pensées, nous avons des directions, mais je prie que la direction de ton Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Je prie pour ce qui sera partagé par Maggie, mais je prie surtout pour ce que nous allons vivre ensemble. Père, unis-nous ensemble par ton esprit et fais-nous entrer dans la plénitude de ce que tu as préparé ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons élever nos attentes. Seigneur, nous voulons chasser ce qui nous empêche de croire, ce qui nous empêche de saisir la vie éternelle qui est en toi, de saisir la profondeur et la plénitude de qui tu es et de ce que tu veux pour tes enfants. Oui, et nous saisissons par la foi. Et nous élevons nos attentes afin de saisir par la foi ce que tu as préparé pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bon. Vous voyez ce premier verset d'Osée, là, il nous dit, voilà, mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance. Mais de quelle connaissance Dieu parle ? Est-ce que c'est la théologie ? Mais est-ce que les théologiens, ils sont beaucoup plus vivants que les autres, hein, vous avez remarqué. Mais quand on ne connaît pas beaucoup la parole, c'est difficile. Mais de quelle connaissance Dieu parle ? Est-ce que voilà, en faisant 6 ans de théologie, je suis sûr que la vie sera en moi ? Bon, je ne sais pas, hein, des fois je vois des co-théologiens, je ne sens pas forcément ça. Non, en fait, le mot hébreu, là, pour connaissance, ça nous parle beaucoup plus de compréhension, de discernement et de sagesse. Le peuple de Dieu manquait de compréhension, de discernement et de sagesse. Compréhension de quoi ? Dieu veut nous donner une compréhension de qui il est. Dieu veut nous donner une compréhension de qui nous sommes en lui. Qui suis-je en lui ? Et je pense une clé, et c'est ce qui a été prié tout à l'heure, c'est que Dieu nous regarde comme des fils et des filles bien-aimés. Et il nous fait entrer dans son amour de Père. Compréhension de qui je suis en lui. Compréhension de sa volonté pour ma vie. Quel est le destin que mon Père Céleste a prévu pour son fils, pour sa fille ? Compréhension de sa volonté pour ma vie. Et ça, c'est souvent de façon générale, mais dans la réalité de chaque jour, force est de constater qu'on a du mal à discerner et à avoir la sagesse et la compréhension de ce que Dieu veut dans une situation précise. Je ne sais pas si vous luttez, mais on lutte souvent. Mais Seigneur, quelle est ta volonté dans ces problèmes que je traverse ? Tu vois, ces problèmes familiaux que je traverse, ces problèmes de travail que je traverse, ces problèmes que je traverse dans l'éducation des enfants, c'est tous ces problèmes-là. Quelle est ta volonté ? Et quel est le chemin que tu as préparé ? Quel est le chemin que je dois suivre ? Quel est le prochain pas ? Souvent, nous hésitons à mettre le pas dans le pas de Jésus parce que nous discernons mal le pas de Jésus, parce que nous manquons de cette connaissance, de ce discernement et de cette sagesse. Dieu veut nous donner cette connaissance de lui qui est sagesse et discernement et compréhension de qui il est, de qui nous sommes dans son plan divin, mais aussi au jour le jour de ce qu'il a prévu, du chemin où nous devons poser nos pieds et comment entrer dans la plénitude de ce qu'il a préparé. Avoir une perspective divine des choses, même dans les choses très terrestres, des choses au jour le jour, les défis quotidiens que nous avons. Avoir sa perspective divine afin de savoir où poser les pieds et comment faire le prochain pas. Et c'est ce que nous dit Jean 17, on l'a vu, voilà. Mais, Jean 17, 3, alors pour ne pas mal le redire, je vais le relire. Voilà, mais la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique, et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à te connaître. Voyez, le mot qui est utilisé en grec, connaître, c'est ginosko, ça veut dire vraiment une connaissance intime. C'est un mot même qui est utilisé pour les relations intimes entre un mari et son épouse. Une connaissance intime. Une connaissance intime, c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut une intimité. On a lu dans 2 Timothée 1:1, où il est dit que c'est en Christ, c'est dans l'union avec Christ qu'on a accès à la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle, c'est quelque chose que Dieu a prévu de toute éternité, c'est le cas de le dire, mais tu peux avoir accès uniquement en Christ. Ça veut dire dans l'union avec Christ. Donc, ça nous paraît évident. Voilà, je crois, mais c'est pas une croyance intellectuelle, c'est une croyance du cœur qui fait que j'entre dans la communion avec Christ, en Christ, dans l'union avec Christ. Je saisis la vie éternelle. Et non seulement je saisis la vie éternelle, mais je grandis dans cette connaissance, dans cette relation intime avec Dieu. Et c'est là que je peux entrer pleinement en possession de tout ce qui concerne la vie éternelle. Oui, parce que 1 Timothée 4,8 nous parle que dans l'attachement à Dieu, nous possédons des promesses, la promesse de la vie dans l'avenir, mais dans le présent aussi. Est-ce que vous réalisez que quand vous avez cru à Jésus, vous n'avez pas seulement accès à la vie éternelle pour « oh, ben, quand on sera au ciel », mais on entre déjà dans la vie éternelle, nous sommes dans la vie éternelle. Oui, probablement, à moins que Jésus revienne avant, probablement nous mourrons, mais rien ne coupe cette réalité de vie éternelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et Dieu nous dit, voilà, attachez-vous à moi en tant que fils et fille du Père, attachez-vous, restez dans l'union avec Christ, votre frère aîné, restez dans cette communion, et vous aurez non seulement la vie éternelle dans l'avenir, mais déjà vous jouissez des richesses de la vie éternelle. Très, très souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on peut être frustré au jour le jour. Oh, je sens pas vraiment la présence de Dieu. Où est la promesse de sa vie abondante? Mais regarde, Seigneur, il y a les difficultés de la vie de chaque jour, de les situations à laquelle je suis confronté. Où est la promesse de ta vie éternelle? Mais Dieu dit, attachez-vous. C'est dans l'attachement à Dieu que nous avons la promesse, non seulement de la vie éternelle à venir, mais de la réalité de qui est Christ, de la réalité de qui est notre Père aujourd'hui. Vous voyez, il y a une grande richesse en Dieu, Dieu Tout-Puissant. Il y a toute la richesse, il y a la plénitude et l'infini de la richesse de Dieu qui est à disposition. Pour avoir accès à ça, nous devons entrer en communion avec le Père, en étant réconciliés avec lui, en acceptant Jésus dans nos cœurs. Dans nos cœurs, pas dans nos pensées, mais dans nos cœurs. Mais ensuite, cette richesse, non seulement il faut y avoir accès, mais il faut pouvoir saisir au jour le jour cette richesse. Et Dieu dit, attachez-vous. Attachez-vous à moi, attachez-vous, entraînez-vous à l'attachement à Dieu, comme nous dit Paul, comme Paul de Diamonée, entraînez-vous à vous attacher à Dieu jour après jour. Et là, non seulement vous aurez l'accès à la richesse de Dieu, à son amour, à sa beauté, à sa fidélité, à sa grâce, à sa paix, à la faveur de Dieu, aux bénédictions de Dieu, très concrètes aussi au jour le jour, mais vous renouvellerez dans cette richesse. Prenons un exemple. Pensez à un bébé qui naît dans le ventre de sa mère, enfin qui grandit dans le ventre de sa mère. Et ce bébé, il est déjà dans le sein de sa mère. Il est déjà à l'intérieur de sa mère. Mais pour qu'il vive vraiment de la richesse de ce que sa mère vit et de la richesse de ce que sa mère mange, il faut qu'il y ait un cordon ombilical. Et par ce cordon, il se nourrit de ce dont sa mère va se nourrir aussi. Et il va vivre. Et il va vivre en communion étroite avec sa mère. Quand nous venons à Christ, nous sommes un peu comme dans son bébé. Voilà, nous sommes dans la présence de Dieu et nous pouvons voir les beautés et elles sont accessibles à nous. Mais il faut qu'il y ait ce cordon ombilical de la relation au jour le jour avec le Père par laquelle je me nourris. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture c'est ce qui portait Jésus, c'était cette relation avec son Père, cette relation au jour le jour, ce cordon ombilical par la prière qui lui faisait se nourrir de la volonté, de la parole et de la vie de son Père. Et Dieu nous dit, mais voilà, ne restez pas simplement à l'extérieur, ne restez pas simplement ou comme un bébé qui serait peut-être déjà en relation avec Dieu, mais qui se priverait du cordon ombilical de son amour pour se nourrir jour le jour de la volonté, de la parole, de la sagesse, du discernement et de l'approbation de son Père Céleste. Cette connaissance, cet attachement à Dieu qui possède la promesse d'une vie abondante déjà sur cette terre. Vous savez, souvent on pense à ce verset qui dit « Oh, je suis assis avec Dieu dans les lieux célestes, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. » Vous savez, dans Éphésiens 2, « Je suis assis avec Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et souvent, on prend cette parole comme une parole d'autorité. Oui, voilà, nous allons faire le combat spirituel. Alors frère, pense que tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes et ça va chauffer parce qu'on est assis avec Jésus. Et c'est vrai que c'est un lieu d'autorité, mais je crois qu'avant d'être un lieu d'autorité, c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu d'intimité. Très souvent, nous voulons l'autorité de Dieu, mais nous pensons que nous allons pouvoir avoir l'autorité de Dieu sans passer par l'intimité de Dieu. L'intimité avec Dieu, l'intimité de Dieu, l'attachement à Dieu précède l'autorité avec Dieu. L'autorité n'est pas le but. Le but, c'est de vivre cette intimité. Et quand tu es un fils de ton Père, et que chacun voit que tu es fils de ton Père, hein, je pense que si le fils d'un grand banquier vient et va acheter quelque chose, on va dire, oh là, mais c'est le fils du banquier, on le connaît, lui. Oh là là, oui, on va lui faire crédit, il n'y a pas de problème, hein. Parce que sinon, son père, il va nous couper les vivres. Non, 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 allez, viens, tu es bienvenu, là. Mais si par l'intimité avec notre Père, les gens voient la réalité que nous sommes fils et filles, croyez-moi, ça, c'est l'autorité que Dieu donne. C'est une autorité qui donne accès n'importe où, n'importe quand, parce que c'est, elle reflète la gloire du Père et les portes s'ouvrent. Un lieu d'autorité, mais surtout un lieu d'intimité. La même intimité qu'il y a entre mari et une femme. On a dit connaissance, le même verbe qui est utilisé, le même mot qui est utilisé pour connaître, un homme qui connaît sa femme. Un lieu d'intimité. Et je ne sais pas, hein, bon, les maris et les femmes là peuvent parler, hein, mais qui connaît parfaitement sa femme ici, ou qui connaît parfaitement son mari là? C'est une vie d'apprentissage, hein, mais vous le connaissez un peu quand même. Hein, vous savez, cette faculté, voilà, tu entends le pas le soir et tu sais, ah ça c'est mon mari qui rentre, ah ça c'est ma femme qui rentre. Ah, tu entends la voix et tu peux la reconnaître au milieu de 10 ou de 1000 même. Tu sais, ça c'est la voix de ma femme. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le matin tu vois son visage, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être les gens ils vont pas voir, elle va essayer de prétendre, tout va bien, non, ça va. Mais tu sais quand quelque chose ne va pas parce que tu la connais. Dieu veut une vie d'apprentissage avec lui pour connaître le cœur et les sentiments du Père, pour connaître la volonté du Père et pour pouvoir aussi recevoir à la fois cette volonté mais cette approbation du Père pour être en communion avec son cœur. Dieu veut cette connaissance comme, et c'est un apprentissage de connaissance qui se renouvelle jour en jour à la mesure où on veut et on décide d'être attaché à Christ, d'être attaché à Dieu en tant que Père. Se renouveler dans l'attachement à lui. Nous devons cultiver cet attachement. Dans une autre version, il est dit et entraînez-vous, exercez votre foi jour après jour. Entraînez-vous à exercer votre foi jour après jour. Oui, c'est dans ce renouvellement et cet entraînement jour après jour qu'on va pouvoir cultiver un cœur et un esprit qui est affûté, qui est attentif. Comme le cœur d'un mari est attentif au pas de sa femme, à la voix de sa femme, à l'expression du visage ou son épouse. Un mari bien aimant, une épouse bien aimante va être attentif ou attentive à ça parce qu'elle a désir de plaire ou il a désir de plaire à sa femme. Et de la même façon qu'avec l'apprentissage d'une vie, nous devenons attentifs et nous savons même devancer les désirs, devancer les états d'âme. De la même façon, Dieu veut que nous cultivions dans cet attachement à lui un esprit et un cœur affûté, capable de discerner, capable d'entendre. Je vais vous donner deux exemples. Enfin, c'est un même exemple. Regardez comment David, le roi David, avait réussi à garder cette communion et cet attachement à Dieu. Il était persécuté par Saül. Il était poursuivi par Saül. Et son première préoccupation, c'était de survivre au jour le jour. Et il a commencé à se cacher dans les grottes d'Israël. Après, il va trouver la grotte d'En-Gedi. Mais au début, il fuyait de lieu en lieu. Et rappelez-vous, à un moment donné, il y a Saül qui le poursuit. Il entre dans cette grotte, Saül, pour, comme dit la parole, se couvrir les pieds. Je sais pas, c'est pas parce qu'il avait froid aux pieds, mais en fait, se couvrir les pieds, c'est aller faire ses besoins. Et donc, il est entré dans la grotte pour faire ses besoins. Et tous les gens de David disent, oh, ça y est, c'est l'occasion, là, tu tues Saül, regarde, c'est la promesse de Dieu, tu prends sa place. Et à ce moment-là, David, poussé par la pression des hommes, il coupe le pan du manteau de Saül. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il coupe le pan du manteau de Saül, il y a son cœur qui s'agite à l'intérieur. Et il sait qu'il est contre la volonté de Dieu à ce moment-là. Et tout de suite, il dit, oh non, je ne commettrai pas un si grand crime de tuer loin de l'Éternel. Et donc il ne tue pas Saül qui était à sa merci. Parce que David avait cultivé ce cœur et cette relation avec Dieu, même dans l'oppression, même dans la persécution, même dans la fuite au jour le jour. On voit ces psaumes, il cultivait cette relation d'un fils avec son père. Mais regardez un peu plus tard, le même David, dans une situation bien plus favorable. Il est dans le repos, il est roi, et un jour il décide de ne pas aller au combat, et il est sur sa terrasse et il voit une belle femme. Il voit Bathsheba en train de se baigner et il l'attire. Et là, c'est étonnant, l'Esprit de Dieu ne lui dit pas « Mais qu'est-ce que tu fais, David ?» C'est beaucoup plus... ça paraît tellement évident. Et il prend Bathsheba pour femme, il s'unit à elle. Et après, bon, Bathsheba tombe enceinte, on connaît, et il n'est toujours pas touché par le Saint-Esprit, David. Et il va faire tuer le mari de Bathsheba, Uri. Il va le faire tuer. Et quand Nathan vient et il lui raconte cette parabole, il n'y a rien dans le cœur de David qui réagit jusqu'à ce que Nathan dise « Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. » Vous voyez comment on peut cultiver l'attachement à Dieu, même dans les temps difficiles, même dans les relations, même dans les temps de persécution. Ce n'est pas une question de situation, mais c'est une question de décider, de garder et d'investir dans du temps et d'investir du cœur dans la relation avec Dieu le Père. Et parce que David l'avait fait, même quand il était persécuté, il était capable d'entendre la voix de l'Esprit en lui. Mais quand il s'est détaché de ça, c'est d'autres pensées qui sont venues contrôler son cœur. Je sais pas si, Maggie, tu veux venir dire quelque chose sur l'écoute par rapport à ça ? Être donc cultivé un cœur et un esprit affûté, capable d'entendre et d'obéir à Dieu.
Bonjour. C'est intéressant que Jean a souligné l'exemple de David hein, qui était amené à couper le pan de l'habit du roi Saül. Et nous voyons que l'écoute est très importante. Hein, l'écoute de la parole, l'écoute de ce que les gens disent. Et très souvent, on se laisse envahir par ces paroles. Hein, ces paroles qui sont parfois justes, mais qui ne sont pas toujours les paroles de Dieu. Et je pense que dans cet exemple que Jean a cité, on voit clairement qu'il y avait une pression hein, sur David pour pouvoir appliquer ce que la voix des hommes disait. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'écoute ? Par rapport à l'écoute, nous pouvons le voir dans Exode 19:5, où il est dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Donc ça veut dire qu'il y a une importance à écouter la voix de Dieu. Donc quand nous avons des voix de ce monde ou des pressions liées à des situations dans lesquelles nous nous trouvons, prenons le temps de venir vers Dieu et de dire « Seigneur, je veux écouter ta voix. » Et nous avons un Père qui est excellent. Quand nous venons vers lui, il ne nous laisse jamais sans réponse. Jamais, jamais. On a des exemples qui remplissent la Bible. Même lorsqu'il y a une tragédie qui est venue sur Israël, au moment où David avait fait le dénombrement, il a mal agi, selon Dieu. Il a vu la plaie qui était sur le peuple et qui sévissait. Il a été à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Même dans ces situations, on peut aller vers Dieu pour dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Un exemple qui est connu de nous tous, c'est l'exemple des Gabaonites, hein, avec une des plaies hein, qui est les conséquences des actes posés par Saül, le roi Saül. Quand la plaie sévissait, David a cherché la face de Dieu. « Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette affaire ?» Et Dieu lui a révélé les choses qui ont été faites aux Gabaonites des années plus avant. Donc l'écoute de Dieu est très importante pour nous permettre de déceler, de décrypter un certain nombre de choses. C'est vraiment important. Et je pense que très souvent, malheureusement, c'est pas ce que nous faisons. Et nous nous laissons emporter par le flot. Parce qu'il y a nos propres voix et aussi ceux des autres. Hein. Et après, on a du mal à discerner la voix de Dieu dans toute cette situation. Donc l'écoute est très très importante. Nous devons nous exercer à écouter la voix de Dieu. Et nous avons le privilège, le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est la parole de Dieu. Nous avons un mot d'emploi pour notre vie ici-bas sur la terre. Pour vivre en paix malgré les tragédies, malgré les persécutions, malgré les soucis, Dieu nous a donné les notices. Et comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas une situation ou une circonstance qu'on ne trouvera pas dans la Bible. Tout est là. Les problèmes familiaux, les problèmes de couple, les problèmes de rejet, les problèmes de haine, tout est dans la Bible. Que faisons-nous de cette parole? Nous devons apprendre à dire à Dieu et à nous-mêmes, Seigneur, donne-moi la grâce de savoir que ta voix se trouve dans la parole écrite. Et quand je me trouve face à une situation, je peux trouver des réponses ou des modèles qui peuvent me permettre soit de faire recul, soit de bondir, soit d'être sur la réserve. Donc on a tout cela, mais il nous faut pas faire l'économie ni du temps. Ça, qui dit écoute, dit je m'arrête et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans l'affaire? C'est très important. Nous sommes dans une situation où on sait que le monde vacille, nos vies avec. Donc nous avons besoin d'écouter Dieu. Et je pense que ça, c'est vraiment une priorité. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Si nous apprenons à écouter Dieu, nous aurons la perspective de Dieu dans nos situations. Même les choses qui sont chaotiques, il pourra dire, mais moi j'ai dit ça. Et sur la base de la parole que Dieu a dit, je peux marcher la tête haute même s'il y a de l'eau partout dans ma maison. Mais ça demande un exercice que je dois faire. Je pense que c'est vraiment très important. Et je suis dans une phase pour moi-même où je me dis, Maggie, écoute. Écoute ce que l'Esprit dit, écoute ce que Dieu dit. En dépit de ce que mes yeux voient, en dépit de ce que mon corps ressent, je dois apprendre à écouter Dieu. Et je pense que la clé pour nos crises, la clé pour nos folies, la clé pour ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours, c'est l'écoute de Dieu. Et quand nous écoutons Dieu, Dieu viendra. Comme il est venu avec son Saint-Esprit, fortifier la foi de Jésus lorsqu'il était en écoute pour savoir comment je vais passer à travers de la croix. L'écoute lui a permis de dire, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et je pense que c'est là où Dieu veut que nous arrivions. Lorsque nous arrivons à ce stade, nous épousons le désir du cœur de Dieu et il nous donne la grâce, le courage et la détermination pour traverser, même si c'est la vallée de larmes et de la mort, même si c'est la vallée de douleur, il nous donnera la grâce et le courage de traverser, parce qu'il dit on traverse, il ne nous dit pas qu'on demeure. Mais si nous l'écoutons pas, nous demeurons dans l'affaire. Et quand nous demeurons, vous savez, on est dans une période de froid. Et on entend à la télé, à la radio, il y a des stratégies qui sont mises en place pour que les gens ne demeurent pas dans la rue. Pourquoi? Parce que lorsque nous demeurons dans la rue, nous mourons. Il n'y a pas un ou il n'y a pas deux. Nous mourons. Le lendemain matin, il y a le SAMU qui va retrouver notre corps allongé. Et je pense que Dieu nous exhorte à l'écouter pour que nous ne mourons pas. Comme les gens, il y a des maisons qui existent pour ceux qui peuvent se protéger du froid. Mais si nous refusons, nous allons mourir. Mourir spirituellement parce que nous n'allons pas vivre cet épanouissement que Dieu nous a donné. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'écoute. Merci.
Voilà, alors ça me fait rebondir, je vais finir juste avec ça. On peut dire beaucoup de choses, hein, mais c'est ça. Il y avait énormément de choses, mais je pense qu'on va juste donner quelques points et ensuite on va entrer dans la prière. Maggie a parlé de la parole. Et voilà, effectivement, je pense qu'un des lieux où on peut écouter, entendre Dieu et s'attacher à lui, c'est dans la parole de Dieu. Alors imaginez un petit peu, voilà, on arrive près de l'an 0, avant Jésus-Christ, mais, et voilà, il y a Dieu qui... Il y a Dieu qui voit, oh là là, il se dit, mon peuple d'Israël ne m'obéit plus, par faute de connaissance, mon peuple périt, il faut que je fasse quelque chose. Ah, j'ai une idée, je vais leur envoyer la parole de Dieu. Et il prend sa grosse biffe qu'il avait mise au ciel, hein, et puis il dit, voilà, je vais l'envoyer. Hop, 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 ça tombe sur la terre. La parole de Dieu est venue. Et les gens commencent à ouvrir le livre et dire, ah, c'est super, Dieu nous a envoyé un gros cadeau. Bon, c'est dommage parce qu'en tombant, la Bible était tellement grosse qu'elle a écrasé 3-4 personnes, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça que Dieu il a fait? Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non. Il n'a pas dit, je vais envoyer un livre. Il a dit, je vais envoyer une personne. Il a dit, je vais envoyer mon fils. Est-ce que vous réalisez que quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, on dit, ah, mais moi j'aurais aimé être autant des disciples, hein, voir Jésus, là, ah, ça aurait été super. Mais est-ce que vous réalisez que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ? Quand tu ouvres la parole de Dieu, tu as le privilège de voir, d'être assis avec Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, mais aussi peut-être sur le lit de ta chambre. Peut-être sur ta chaise où tu pleures, tu ouvres la parole et Jésus se tient à côté de toi. Et Jésus se tient en toi et tu te tiens en lui. Jésus, la parole de Dieu, c'est une parole incarnée. C'est une parole incarnée, c'est ça qui fait la différence. Alors Maggie a dit, voilà, il y a toutes les réponses. Et peut-être vous allez faire tous les trucs et dire, ah mais cette situation quand même, j'ai pas trouvé exactement la réponse, je sais pas quoi faire. Mais c'est parce que c'est pas simplement, je pense que ce que disait Maggie comme mode d'emploi, c'est juste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que l'on peut creuser et découvrir. Mais c'est quand la parole devient vivante, parce qu'elle est chère, parce qu'elle est Jésus à mes côtés. Et vous savez, il y en a qui souhaiteraient avoir vécu autant de Jésus, mais aujourd'hui tu as Jésus-Christ. Quand tu ouvres ta parole et tu te laisses pénétrer par elle, tu as Jésus-Christ qui s'assoit à côté de toi, mais en plus tu as le Saint-Esprit qui est répandu dans ton cœur afin de parler avec lui, afin de comprendre ce qu'il fait. Avant que le Saint-Esprit soit répandu, les gens entendaient Jésus parler, ils entendaient ses paroles, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Mais tu as ce privilège, et nous avons ce privilège d'avoir Jésus, la parole de Dieu parmi nous, et d'avoir son esprit qui nous permet de comprendre ce qu'il dit à nos cœurs. Et c'est comme ça que la parole va apporter les solutions pratiques à tes situations de chaque jour. Mais tu dois pour ça te nourrir de cette parole et t'attacher à la personne de Jésus au travers de sa parole. Et là, Jésus et son esprit va te donner des clés. Il va te donner les clés pour comprendre sa parole. Vous savez, quand j'ai commencé à être chrétien, j'avais le premier livre chrétien que j'ai lu en dehors de la Bible, mais je lisais pas beaucoup la Bible, c'était, je crois que c'est le chemin du calvaire, je crois, de Ralph Challis, hein, c'est ça? Ah oui, non, c'est vrai. Non, c'est pas le chemin du calvaire. Alors, c'est un autre livre de Ralph Challis, pardon. Oui, parce qu'il y avait celui-là aussi. Mais, oui, c'est vrai. C'est le chemin. Mais en tout cas, c'est dans un livre de Ralph Challis, je crois, où il disait que lui, très tôt, il s'est mis à lire la Bible chaque année. Une fois par an. Et ça m'avait beaucoup encouragé parce qu'il avait montré comment ça avait changé sa vie. Et à partir de ce moment-là, je dis, ah, moi aussi, je vais lire la Bible une fois par an. Et j'ai commencé à lire la Bible. Mais vous voyez, je lisais ça un petit peu. Peut-être uniquement comme un mode d'emploi, et peut-être avec l'orgueil aussi. Ah, voilà, je vais lire la Bible. Et je sentais pas grand-chose qui changeait dans ma vie. Mais quand tu lis la parole avec cette communion avec Christ, avec cette communion d'esprit avec ton Père, dans la prière et en croyant que Jésus est la parole de Dieu et qu'il parle à ton cœur et qu'il est là assis à côté de toi en train de murmurer à ton oreille et de faire entrer dans ton cœur la parole incarnée afin que tu sois aussi une parole incarnée, que des pans de la parole vont venir s'incarner et changer ta vie, que quand tu lâches des points de ta vie que la parole met en lumière, tu laisses pénétrer ces nouveaux pans de la parole de Dieu dans ta vie. Ça change tout. Et il a fallu des années pour que je comprenne ça, et que quand je lise la parole, et je lutte encore avec ça, mais quand je lis la parole, c'est différent, parce que c'est pas la manière de dire, il faut que je la lise en un an. Je la lis plus en un an, d'ailleurs, mais je mets beaucoup plus de temps qu'un an pour la lire, mais je l'ai lue plusieurs fois, et je l'ai méditée surtout plusieurs fois, et dans cette communion avec Christ. Et c'est là que Dieu te parle et te donne des clés et des solutions pour ta vie. Et non seulement il te donne des clés et des solutions, mais il te nourrit de la volonté de ton Père, il te nourrit de l'affection et de l'approbation de ton Père. Et ça te porte sûrement. Ça, c'est une parole qui s'incarne en toi et qui produit la vie. Voilà. Mon peuple périt faute de connaissance, mais Dieu a envoyé son Fils afin qu'il nous fasse connaître la relation avec le Père et afin que nous ayons la vie éternelle en le connaissant, en dans cette communion et dans cet attachement avec lui. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que le Seigneur veut nous dire. On n'a parlé pas beaucoup de la relation avec le Père. Et je crois que le Seigneur nous invite vraiment à entrer plus profondément dans cette communion avec lui. Sachant que notre foi n'est pas simplement ici parce que je sais, mais notre foi est ici parce que je vis. Parce que je vis la communion. Parce que je vis dans l'union avec Christ. Parce que je vis dans l'union avec mon Père. Comme on vit dans un foyer. Mais avec un Père qui est tout-puissant, avec un Père qui est bien aimant et qui m'accepte, avec un Christ qui a tout accompli, avec un Christ qui est à mes côtés pour parler, pour agir, parce qu'il est parole de Dieu. Et ça change la perspective. Voilà, j'aimerais qu'on... On va prier, d'abord, et ensuite, je pense qu'on va prendre des petits groupes et qu'on puisse prier, que cette dimension, peut-être les paroles que j'ai dites, surprennent certains, peut-être moins d'autres, mais qu'on les laisse devenir chair et vie. Je pense que c'est un défi de chaque jour, que cet attachement à Christ, et c'est que cette parole devienne vivante en nous, que cette écoute dont a parlé Maggie soit réelle, et qu'elle parle plus fort, que la voix de Dieu parle plus fort que la voix des hommes dans nos vies, et qu'elle triomphe de tout ce qui résiste en nous, de tout ce qui est de moi, et qui est de ma volonté, et tout ce qui est de ma pensée, afin de recevoir la volonté du Père, la nourriture quotidienne de Christ, et de faire et de recevoir les pensées et les voix de Dieu dans nos vies. On va prier. Père, tu vois, l'évangile est simple. Nous voulons dire l'évangile est simple. Et parfois nous entendons des paroles et nous disons, mais je sais déjà cela. Mais est-ce que ton cœur a connu cela? Est-ce que ton cœur a connu cela? Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous savons dans ce monde. Nous sommes dans un monde qui sait beaucoup de choses, mais combien de choses connaît-il? Dans un cœur, dans un monde qui dit connaître beaucoup de gens, dans un monde de liaison Internet, on peut être en communication avec beaucoup de gens, mais est-ce que nous connaissons ces gens? Est-ce que nous sommes en communion? Et Père, de la même façon, nous pouvons être en communication avec la parole, mais est-ce que nous sommes en communion avec la parole? Est-ce que nous te connaissons? Père, je prie que ce temps que nous allons vivre soit une opportunité, Seigneur, de pas dire « je sais déjà cela », mais de dire « je veux connaître cela ». Je veux me laisser connaître par ta parole qui sonde les cœurs et les reins, et je veux te connaître par ta parole qui révèle la beauté de Christ, qui révèle l'amour du Père. Oh Seigneur, donne-nous dans ce temps, pas de savoir, d'abandonner nos savoirs, mais de désirer connaître, de désirer connaître. Seigneur, je prie que nous soyons animés de cet esprit. Je prie que ton Saint-Esprit vienne nous révéler la connaissance, pas le savoir, mais la connaissance de Christ, la connaissance de l'amour du Père, révélé dans le cœur, comme notre sœur l'a dit tout à l'heure. Cette semaine, pour la première fois, j'ai senti l'amour du Père. Je prie une connaissance, une relation intime avec toi, plus qu'il soit plus même que la relation d'un mari avec sa femme. Oh, merci pour le privilège de ces relations entre un mari aimant et sa femme. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous avons une connaissance plus grande, une intimité plus grande. Père, c'est cela que j'appelle sur ce temps, Seigneur. Je prie que tous nos savoirs tombent, Seigneur, mais que ta connaissance se fasse jour en nous. Oh Père, élargis nos cœurs maintenant, élargis nos cœurs, Seigneur, fais tomber les forteresses des pensées, comme au jour de Jéricho, que les forteresses des pensées tombent, Seigneur, afin qu'il y ait de la place pour la connaissance, afin qu'il y ait de la place pour l'intimité, afin qu'il y ait de la place pour l'amour du Père d'être manifesté et réel et vivant dans nos cœurs. Sois béni pour cela, Seigneur. Parle dans ce temps. Agis. Glorifie ton nom. Pénètre nos cœurs. Nous t'ouvrons la porte. Nous voulons dire oui et amen. Seigneur, fais-toi connaître de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.